Bonsoir à tous, il est 19h à Bamako et en temps universel, 20h à N'Djamena, Claire Moragibour avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. En Côte d'Ivoire, l'ex-président Henri Konan Bédié a appelé aujourd'hui dimanche à la désobéissance civile face à la forfaiture, selon ses termes, de la candidature controversée à un troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre. Henri Konan Bédié participait à une réunion des partis de l'opposition à Abidjan. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est à Bamako aujourd'hui pour sa seconde visite en moins d'un mois depuis la prise de pouvoir par les militaires au Mali. Le chef de la diplomatie algérienne a été le premier membre d'un gouvernement étranger à se rendre à Bamako depuis le putsch du 18 août, en dehors des médiateurs de la CEDEAO. Jeudi soir, l'Union africaine a insisté pour que la junte militaire au pouvoir au Mali nomme rapidement des dirigeants civils pour mener la période de transition. Au Tchad, 10 militaires ont été tués, 7 autres ont été blessés jeudi dernier au cours de l'attaque d'une base de Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé hier Sadiq Khatir, le secrétaire général de la province du lac Tchad. Au Nigeria, le gouverneur Godwin Obaseki, un transfuge du parti au pouvoir passé dans l'opposition, a été réélu dans l'état d'Edo à l'issue du premier scrutin organisé dans le pays depuis le début de la pandémie du coronavirus. En 2016, Godwin Obaseki avait été élu gouverneur déjà de l'état d'Edo sous la bannière de l'APC, mais il a fait défection pour rejoindre l'opposition après avoir été empêché de se présenter à un second mandat par son parti. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a accusé aujourd'hui les Européens de ne pas lever le petit doigt, selon son expression, pour empêcher le commerce d'armes avec l'Iran en refusant de soutenir le rétablissement par Washington des sanctions des Nations Unies contre Téhéran. Hier, dans la nuit, les États-Unis ont proclamé le retour aux sanctions internationales contre l'Iran, des sanctions levées en 2015 en contrepartie de l'engagement iranien à ne pas se doter de l'arme atomique. Cette position a immédiatement été dénoncée par Moscou et les Européens, partie prenante de cet accord sur le nucléaire. Au Bélarus, des dizaines de milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées aujourd'hui à Minsk, la capitale, pour une nouvelle marche de protestation contre la réélection du président Alexandre Loukachenko, mais également contre le soutien du président russe Vladimir Poutine, contre le soutien qu'il apporte à M. Loukachenko. Les manifestants se sont rassemblés malgré les pressions des forces anti-émeutes. Les forces de l'ordre auraient procédé à plus de 100 arrestations, selon des ONG. En Allemagne, plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Berlin et dans d'autres villes allemandes pour appeler l'Union européenne à prendre en charge les demandeurs d'asile laissés sans abri après les incendies qui ont dévasté le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Parmi ces demandeurs d'asile, 9000 ont été installés dans un nouveau camp provisoire. La pandémie de coronavirus a fait près de 958 000 victimes dans le monde depuis fin décembre et plus de 30,8 millions de cas ont été comptabilisés. En Europe, la France a enregistré plus de 10 500 nouveaux cas en 24 heures. La Belgique a franchi aujourd'hui le cap des 100 000 infections. Au Royaume-Uni, une amende pouvant aller jusqu'à 11 000 euros sera infligée à toute personne qui ne respectera pas le confinement en cas de contamination. Enfin, ce soir, la cérémonie des Emmy Awards ici aux États-Unis sera 100% virtuelle. Les stars américaines des séries télé recevront leurs statuettes à leur domicile. Les Emmy Awards sont les équivalents des Oscars pour la télé. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Madlakiza avec vous ce soir. Lionel Runanilagahima sur la mise en onde. Aux États-Unis, la ville de Houston, au Texas, a enterré George Floyd après une pluie d'hommages. Il incarne désormais dans le monde entier les victimes du racisme et des violences policières aux États-Unis. Le 25 mai, dans des circonstances qui continuent de glacer l'Amérique, plaqué au sol, menotté, George Floyd a été asphyxié par l'agent Derek Chauvin qui est resté agenouillé sur son cou pendant près de 9 minutes. Une vidéo de la scène devenue virale a poussé les Américains à descendre par milliers dans les rues pour exiger la fin des brutalités policières et des discriminations raciales lors de manifestations d'une ampleur inédite depuis le mouvement des droits civiques des années 1960. Les États-Unis vivent donc une fois de plus un contexte de crise raciale. Même si les races, les classes, les regroupements ou les communautés peuvent être exclusifs, le pays n'a pas une religion exclusive. Comment la religion peut unir les gens d'une manière effective? Nous en parlons avec nos invités. Le dialogue des religions accueille ce soir de Boston, dans l'état du Massachusetts, le père jésuite Marcel Ouineza. Bonsoir mon père.
Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices.
Dans l'état du Maryland, nous sommes avec monsieur Sidi Touré. Bonsoir monsieur Touré.
Bonsoir et merci pour l'invitation et puis merci beaucoup pour les auditeurs qui sont en ligne et sur la radio.
Alors, il y a des chrétiens au sein de toutes les races, les musulmans, les bouddhistes, les orthodoxes, etc. Les différentes raciales partagent donc la même foi. Mon père, pourquoi la religion n'arrive pas à les unir?
Merci pour la question. Il faut d'abord dire que la religion a des fonctions qu'elle doit remplir. D'abord, elle répond à des questions existentielles. Des questions d'où venons-nous, où allons-nous, qu'est-ce qu'on peut espérer? Dans ces questions existentielles, le racisme aussi y compris. Ça veut dire qu'on ne peut pas éviter ces questions de race qui nous guettent à ce moment. Et la question est la suivante, pourquoi est-ce que la religion n'arrive pas à unir ces Américains, et même ailleurs, ce n'est pas seulement aux États-Unis. Il faut tout d'abord dire que la majorité des religions sont exclusives dans leurs croyances. Et dans certains cas, ouvertement ou d'une façon subtile, ces religions encouragent l'intolérance contre les personnes de confessions différentes. Et il y a aussi des religions où les gens viennent ensemble et partagent leurs croyances. C'est souvent aussi la manifestation d'une hypocrisie, si je pourrais dire, de manque de conversion personnelle. Et donc, si on ne parvient pas à unir les gens, c'est que les gens, d'abord, doivent se convertir et croire que la personne humaine est sacrée. Donc, la personne humaine créée, du moins du point de vue judéo-chrétien, la personne humaine est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela, c'est un aspect très important, du moins pour le christianisme. Donc, souvent, on manque à ce principe. On n'arrive pas à le sacraliser comme il le faut. Si nous allons dans l'histoire, on voit même que l'Église catholique, souvent, a contribué à ces divisions, ou bien même au sein de l'Église, il y a des discriminations. C'est une invitation à la conversion. Comment les unir? Je crois que les principes de l'enseignement catholique social sont très importants.
La dignité de la... Vous voulez parler de la place de la religion pour transcender les différences des races, n'est-ce pas?
Certainement. Et c'est là où il faut souligner la dignité de la personne humaine. Tout être humain est créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ, du moins du point de vue du chrétien. Et il est donc sans prix, la personne humaine est sans prix, est digne de respect en tant que membre de la famille humaine. Et ça, c'est sacré. Et malheureusement, les religions souvent nous avons l'idéal, mais le réalisme, on n'arrive pas. Et c'est là où souvent on n'arrive pas à concilier les deux. Donc l'idéal que nous professons et puis la vie des gens dans l'actualité. Il y a aussi le principe de la vie humaine qui est connecté à son principe de la sacralité de la dignité de la personne. Mais il faut aussi privilégier les pauvres dans ce pays où nous vivons. Qui sont les pauvres? C'est souvent les noirs, souvent non éduqués, et bien qui souffrent de l'injustice sociale, qui est ancrée souvent dans le système. Et c'est là où, du moins du point de vue chrétien, puisque c'est là où je maîtrise, c'est là où on peut même dire que le racisme, c'est un péché originaire de ce pays. Est-ce qu'il n'y a pas espoir? Je crois qu'on pourra en parler après.
Monsieur Touré, vous êtes de la confession musulmane. Quel est votre point de vue?
Donc, je vais commencer d'abord par dire que la religion, même si elle est censée unir les humains, constitue une barrière religieuse, c'est-à-dire qu'elle crée une fracture sociale entre les communautés. Je prends par exemple ici aux États-Unis où on vit, nous avons presque toutes les confessions. Mais parmi les chrétiens, on a chrétiens, on a catholiques. Les catholiques ont leur propre église, les protestants ont leur propre église. Si on prend aussi les musulmans, c'est la même chose. Il y a des mosquées sunnites, chiites, etc., etc. Donc ça crée d'abord, de prime abord, ça crée une fracture qui divise les membres d'une même communauté. Il y a aussi la différence sociale. La position sociale joue beaucoup dans la manière dont la religion traite les uns et les autres. Il y a des églises qui sont très, très riches, dont les membres cotisent. Il y a l'église des Blancs, il y a l'église des Noirs. Donc, c'est une fracture sociale qui est là et qui n'est pas prête aussi à partir. D'autre part, si on prend la religion musulmane, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, où les 95% sont musulmans, durant la fête de Korité, ou bien la fête, la fête du Ramadan, ou bien la fête de Tabaski, on a deux ou trois fêtes dans le même pays, n'est-ce pas? Un pays qui est composé de 95% de musulmans. Les Ibadou fêtent le premier, les musulmans Mourid et Tidiane fêtent le deux, et les autres fêtent le 3. Et alors que c'est la même population, c'est la même religion presque. Mais d'autre part, on peut s'inspirer de l'exemple sénégalais, qui est composé de confréries au sein de l'islam, mais aussi une autre religion, ou bien d'autres religions qui sont chrétiennes, catholiques et autres. L'exemple d'intégration que l'on donne, le fait que dans une ville comme Saint-Louis, Saint-Louis est au nord du Sénégal, à 150 km ou 200 km de Dakar. Donc dans la ville de Saint-Louis, on trouve une cimetière qui est mixte, c'est-à-dire qui reçoit les musulmans et les chrétiens en même temps. Ça, c'est un aspect rare, je dirais même particulier pour notre pays, pour le Sénégal. Donc, si, par exemple, les religions faisaient beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'efforts dans le sens d'intégrer la personne en tant qu'humain et non en tant que disciple, ça pourrait être mieux, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et puis, ce n'est qu'un seul aspect de la discrimination raciale qui existe, que ce soit aux États-Unis ou bien dans d'autres pays du monde.
Père Marcel, il faut aussi reconnaître que dans beaucoup de religions, du moins de confessions différentes, que ce soit des chrétiens ou bien même au sein du protestantisme et même au sein de certaines autres religions en Asie ou bien même au sein des musulmans, il y a aussi des groupes extrémistes, fondamentalistes. Dans toutes les religions. Et cela, si ce n'est pas bien étudié, si ce n'est pas bien guidé, ça peut aussi servir à la division au sein même de la communauté ecclésiale ou musulmane, ou bien même au sein de la société humaine.
On l'a vu aussi en Irlande du Nord, n'est-ce pas?
Oui. Donc, comment aider des fondamentalistes, des extrémistes religieux à donner un message qui donne la primauté de la vie. Et ça, ce n'est pas seulement pour certaines religions, ça arrive dans toutes les autres religions. Et donc, la vie est sacrée. Et souvent, on manque dans certaines religions, ça, c'est pas bien, bien centré.
Père Marcel, la foi que les Américains professent est-elle tellement forte pour les unir là où les différences peuvent apparaître?
C'est un peu difficile de juger la foi des gens. Pour les chrétiens, le Seigneur nous interpelle, nous invite à réaliser qu'on nous reconnaîtra par la façon dont nous nous aimons les uns les autres. Et nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 13, verset 35. Donc, le Seigneur qui dit, on vous reconnaîtra en vous aimant, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et ça, c'est un commandement. Et même dans l'évangile de Matthieu, si vous aidez les pauvres, vous visitez les prisonniers, les sans-abri, ça, des actes de charité font qu'on reconnaisse celui qui suit le Christ. Est-ce que la foi professée par les Américains, et pas seulement même les Américains, même ailleurs, peuvent transcender cette différence? Je dirais oui. On a vu quand même de personnes qui sont modèles. Nous reconnaissons l'acte de Martin Luther King qui s'est donné avec son discours, avec sa religion, avec sa formation religieuse. Il avait quand même aidé dans la civilisation ici, surtout dans les années 60. Nous reconnaissons d'autres chrétiens. Même parmi les Blancs, nous avons des gens qui se donnent. Donc l'amour, il faut aussi reconnaître que cet amour que professent les chrétiens, ce n'est pas seulement une émotion ou un sentiment. C'est un vouloir, savoir vouloir le bien de l'autre et de faire quelque chose de concret pour la personne que tu aimes ou que tu rencontres. Je crois que si vraiment on parvient à bien définir ce qu'on comprend par amour, cela pourrait nous aider à unir les gens. Et ça, c'est un défi pour les chrétiens. Et dans les documents de l'Église, du moins l'Église catholique, c'est une invitation à une purification personnelle. Et il faut que je crois que même pour les Américains, il faut qu'ils arrivent à parler. Surtout les Blancs, une conversion personnelle. Pas seulement avoir des manifestations ou des grèves, mais que ces grèves soient suivies par une confession personnelle, politique, et suivies par des politiques qui promeuvent la justice pour les minorités. Donc je dirais que c'est difficile de juger la foi déjà, mais on parvient à voir la foi déjà par les actes. Dans la communauté ici aux États-Unis quand même, pendant ces temps de crise, nous avons vu beaucoup de jeunes qui se rassemblent, qui crient fort à cause de l'injustice qui a été faite à George Floyd et même à beaucoup d'autres Noirs. Nous avons aussi vu les propos de l'archevêque de Washington DC qui a aussi dit fortement qu'il fallait d'abord évaluer si ces gens qui protestaient n'avaient pas ne réclamez pas la justice dont les Noirs ont besoin. Il l'a dit bien fortement, surtout à Trump. Il ne faut pas seulement éliminer ce que ces gens disent, il faut aussi écouter et voir s'il ne faut pas résoudre le problème. Je crois que dans la religion chrétienne aussi, s'il faut en parler plus amplement, il faut parler de la pauvreté anthropologique. Cette pauvreté qui déprime ou qui prive non seulement le bien matériel, le bien spirituel et moral, et intellectuel et culturel et sociologique, mais si on parvient à donner des possibilités aux déprimés, à beaucoup de Noirs qui n'ont pas d'accès aux biens communs, et je crois que cela, la foi, si cette anthropologie est nourrie par la foi, on pourra arriver loin.
Monsieur Touré, cette foi est-elle solide pour unir là où les différences peuvent apparaître ici aux États-Unis?
Bon, ça dépend de chaque personne, de chaque individu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait de la tolérance, beaucoup plus de tolérance chez les personnes, n'est-ce pas, pour pouvoir intégrer tout le monde, que ce soit au sein des églises ou bien dans une autre religion. Les catholiques, n'est-ce pas, considèrent le musulman non pas pour sa religion, mais pour sa qualité humaine. C'est une personne humaine à considérer. Le musulman aussi doit faire de même pour le protestant. C'est de cette méthode-là, de cette manière-là, qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à transcender toutes ces différences-là et à rétrécir le gap entre les communautés, que ce soit noir ou blanc, chrétienne ou musulmane. Mais sans tolérance, donc ça sera trop difficile. D'ailleurs, ce qu'on voit, ce n'est pas encore demain que ça va finir. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention, il y a toujours église noire et église blanche. Il y a toujours mosquée sunnite et chiite, etc., etc. Alors que ce sont les mêmes religions. On devait pouvoir être ensemble et en faisant fi de la couleur de la peau. Et puis, de cette manière, on sera beaucoup plus soudés socialement économiquement et religieusement parlant aussi.
Vous suivez le dialogue des religions, notre discussion continue sur VOA Afrique, voafrique.com.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le président Donald Trump est allé prendre une photo devant la cathédrale en exhibant sa Bible. Est-ce parce qu'il penserait que Dieu a la solution, que la religion pourrait apporter quelque chose que les politiques ne peuvent pas donner, Monsieur Touré?
Oui, je pourrais répondre par l'affirmative, parce que dans une précédente intervention, le président Trump avait dit qu'il pensait qu'on avait besoin de plus de prières. Donc, il avait ordonné à ouvrir les mosquées et les églises pour que les gens y aillent et prient. Donc, pris de, sous cet angle-là, on peut dire qu'on peut répondre par l'affirmative. Mais n'oublions pas que le président Trump aussi, c'est un homme politique. C'est un homme politique d'envergure nationale et internationale. Et on est à l'approche d'une élection. D'ici 4 mois, le peuple américain sera appelé, n'est-ce pas, à élire un nouveau président ou bien à réélire président Trump. Donc, il joue, on peut l'analyser sous cet angle, qu'il joue sur la fibre confessionnelle, n'est-ce pas, pour attirer beaucoup plus de monde dans son cas, pour se donner plus de chances à être réélu.
Père Marcel, le sens que vous donnez au geste du président Trump devant la cathédrale proche de la Maison-Blanche?
Je dirais que ça, c'est une question de, je dirais, personnelle. Et c'est même aussi difficile de juger les pensées ou même les désirs du président. Mais en jugeant le contexte où il y avait beaucoup de manifestants, on voyait aussi que les gens, on avait besoin peut-être plus de sagesse, si je dirais ainsi. Et ici, je vais m'attacher au mot de l'archevêque catholique de Washington, qui a déploré la visite du président Trump et qui y a dit: je trouve déconcertant et répréhensible que toute installation catholique se permette d'être abusée et manipulée de manière si flagrante, d'une manière qui viole nos principes religieux, qui nous appelle à défendre les droits de tous, même ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, ce sont les propos de l'archevêque Wilton Gregory. Tout en sachant que c'est difficile de juger les désirs politiques de Trump, mais en même temps, si on voyait le contexte, il fallait d'abord apaiser, donner le message de consolation, un message qui unit tous les Américains avant même d'aller s'opposer pour prendre une photo. Donc, je rejoins le monde de l'archevêque catholique. Et puis même le pape François en a parlé. Il faut d'abord promouvoir la vie. Tout en sachant que le président Trump, c'est un président, il essaie aussi de promouvoir la liberté religieuse. Ça, c'est un point fort qu'il faut reconnaître. Mais en même temps, le contexte dans lequel on se trouvait, peut-être on avait besoin plus de sagesse que prendre une photo.
Alors, le racisme n'est pas qu'un problème américain, mais mondial. Nous avons vu des manifestations dans plusieurs pays. Dans ces pays, il existe également plusieurs religions communes. Est-ce le même problème qu'on voit ici, qui s'oppose aussi dans tous ces pays, Père Marcel?
La question de religion répond, comme je l'ai dit bien avant, répond à des questions existentielles. Et puis ça nous amène à la transcendance. Religare, comme on dit en latin, ça nous lie à quelque chose de plus profond, de plus grand. Ça nous invite à penser plus loin. Où est-ce que nous allons? Et ces questions sont des questions de civilisation humaine. Ça date de longtemps. Et c'est bien de célébrer la diversité de religions. Et ça, c'est important. Que ce soit des musulmans, que ce soit des catholiques, des protestants, des religions asiatiques, ça montre un Dieu qui aime la diversité. Et c'est bien clair même pendant la création, dans le livre de la Genèse, du moins pour les juifs et les catholiques. On voit un Dieu qui aime et qui célèbre la diversité. Quand il créa, à la fin, il dit « tout était très bon ». Donc, on ne doit pas exclure les gens. En fait, c'est une invitation. Ça, ce n'est pas pour dire que les dogmes et les principes de religion doivent être relativisés. Mais il faut que ces dogmes et ces principes nous aident à transcender, à nous amener ensemble. Il ne faut pas exclure les autres. Donc ça serait le premier point. Mais en même temps, la diversité des religions, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, là où je rentre, ou que ce soit même en Europe, je crois que c'est une question qu'on ne peut pas ignorer, puisque ça donne le sens de la vie, l'orientation de la vie. Donc je réponds à la question d'une façon générale, ce n'est pas seulement pour les États-Unis, mais la religion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en poche. Ça nous interpelle tous.
Monsieur Touré.
Oui, donc comme vous l'avez dit, ça existe partout dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde où ça existe, mais ça va au-delà de la religion. La discrimination ou le racisme peut être économique, surtout dans les pays développés. Si aux États-Unis, par exemple, la société est classée selon le rang, n'est-ce pas, ou bien le pouvoir financier, ou bien selon la race, la couleur de la peau. Donc, pour cela, il existe une Amérique qui est noire, il y a une Amérique qui est blanche, il y a une Amérique qui est jaune, il y a une Amérique aussi qui est marron, n'est-ce pas? C'est une idée défendue par ce qui s'appelle brown, the brown people, qui sont issus du mixage entre le blanc et le noir, ou bien le noir et une autre race. Donc, ce qui veut dire que c'est plus profond même que la religion. Sur le plan financier, la discrimination existe, n'est-ce pas? Sur le plan économique, ça existe. Sur le plan social, ça existe. Sur le plan religieux, ça existe. Mais maintenant, comment faire pour réduire cette distance-là, différence entre les communautés? C'est-à-dire, c'est en donnant plus d'importance à la justice, à l'équité, à l'éthique. Quand je parle de la justice, je parle de la justice de manière générale, mais aussi de la justice sociale, de la justice économique, l'équité, n'est-ce pas, l'éthique, la moralité, tout ça là, ça fait partie des aspects à prendre en compte pour que la société soit plus harmonieuse, en tout cas.
Vous semblez parler du concept d'humanité et de fraternité consacré par l'Ubuntu qu'on voit en Afrique.
Bien sûr, c'est possible de le faire. Peut-être que c'est un challenge pour les pays développés, mais pour nous en Afrique, en ce qui concerne l'Afrique, principalement le Sénégal, on est très proche de cela. Je vous donne des exemples concrets sur le fonctionnement de notre société. Par exemple, on prend le cardinal Tchandoum. Je pense que le prêtre doit le connaître, le cardinal Tchandoum, Hyacinthe Tchandoum. Hyacinthe Tchandoum avait un frère qui était imam. Lui, il était cardinal à l'église. Pourtant, durant toute leur vie, on n'a jamais entendu, n'est-ce pas, de difficultés, de conflits entre les deux. Chacun était dans sa religion et dans la même famille. Chacun était un leader dans sa religion aussi. Pendant longtemps, ce même cardinal Tchandoum faisait des visites de courtoisie à Touba. Touba, qui est une ville sainte, connue par sa confrérie. Mais cardinal Tchandoum venait là-bas. Un autre aspect de la société, c'est que durant les moments de fête, la fête de Pâques par exemple, nos amis chrétiens, ils font des plats dédiés aux musulmans. Le ngala par exemple, c'est une sorte de bouillon qu'ils font et puis ils cuisinent le mouton, la viande de mouton ou de bœuf pour les remettre durant les fêtes, pour les remettre à leurs frères musulmans en les invitant à la maison, partager tout. Donc il y a des possibilités de se rapprocher. Mais ça dépend encore des sociétés. Pour les sociétés développées, c'est un grand challenge là. Et puis la justice et tout, et le côté économique. Donc c'est très difficile.
Père Marcel, renforcer le concept d'humanité, de fraternité.
Et le concept de l'humanité, de Ubuntu, en fait, humanité partagée, si je pourrais le dire ainsi, ça montre l'égalité de toutes les personnes qui viennent de leur dignité essentielle. Le président Obama aime dire, si tu penses que l'éducation est chère, il faut essayer l'ignorance. L'ignorance est plus chère. Donc ça veut dire que dans nos systèmes de justice politique, éducative, l'éducation est très importante. Il faut essayer d'éliminer la discrimination qui existe dans nos sociétés.
Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Merci à vous, Monsieur Sidi Touré, pour votre contribution.
Merci beaucoup.
Merci à Père Marcel Wineza pour votre participation.
Merci beaucoup, Eric et Lionel. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices et que Dieu vous bénisse.
Et nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays natal.
Merci.
merci. Merci à Lionel Manila Gahima pour la mise en onde. Eric Manila Kiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en